Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Je réitère les vœux de bienvenue que Tony a déjà prononcés. Voilà, le culte a commencé avec le psaume 22. Ne cherchez pas, je vais vous lire un extrait du psaume que nous avons lu en entrée de culte, que Tony nous a lu, le verset 25 du psaume 22. « Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. » Et il ne lui cache point sa face, mais l'écoute quand il crie à lui. Dieu sait que la vie n'est pas simple, et qu'avec l'entrée du péché dans le monde, les hommes souffrent de bien des douleurs, de bien des problèmes. Et ce matin, nous allons nous pencher dans l'évangile de Luc au chapitre 7, et la prédication de ce matin a été intitulée « Ne pleure pas ». Je vous invite à prendre avec moi Luc chapitre 7, des versets 11 à 17. Luc chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Poursuivons encore un peu plus loin. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ?» Où devons-nous en attendre un autre ? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ? Où devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Ce matin, nous voulons nous concentrer sur les versets 11 à 17, lorsque Jésus dit à cette veuve, « Ne pleure pas. » C'est aussi à nous qui dit, « Ne pleure pas. » Il est question de miracles, de beaucoup de miracles dans ce passage que nous avons lu, ces quelques versets, et les miracles de Jésus ont un lien avec les promesses de Dieu. Chaque miracle nous parle de ce grand miracle que Dieu opère quand il sauve une âme, quand il vient habiter dans le cœur d'un pécheur, quand il fait de nous un enfant de Dieu, quand nous sommes passés de la mort à la vie, c'est un grand miracle. Les aveugles qui voient, les boiteux qui marchent, les lépreux qui sont purifiés, les sourds qui entendent, les morts qui ressuscitent, comme cela a été relaté à Jean-Baptiste. Tous ces miracles témoignent des bénédictions reçues par un certain nombre de personnes. Mais ces événements qui sont spectaculaires annoncent aussi une délivrance plus radicale, un salut plus profond accessible à tous, par l'Évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La résurrection de ce jeune homme, n'est-ce pas une belle préfiguration de la délivrance de tous ceux qui sont dans la tristesse et qui comptent sur Jésus pour être consolés? Consolés des souffrances présentes, mais consolés aussi pour l'éternité, sachant qu'ils ne verront pas l'enfer parce qu'ils sont réconciliés avec Dieu par le sacrifice de Christ, comme nous l'avons lu, chanté ce matin, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui, Jésus-Christ. Au travers de ce miracle qui a été accompli, cette résurrection du fils de la veuve, nous discernons trois choses. D'abord, la compassion de Jésus face à l'affliction, les versets 11 à 14. Ensuite, la puissance de vie qui triomphe de la mort, dans ce même verset 14. Et enfin, la louange à Dieu qui en résulte, les versets 16 à 17. Et si nous avons loué le Seigneur ce matin, c'est parce que nous aussi nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie. Ces quelques mots de Jésus au verset 13, ne pleure pas. Et ce qu'il va accomplir en faveur de cette veuve nous montre tout d'abord les compassions de Jésus face à l'affliction. Quand on parcourt les Écritures, on y trouve beaucoup de personnes en larmes. Et cela pour de diverses raisons. La Bible ne passe pas sous silence les moments de tristesse qui accompagnent la vie d'un être humain. Pourquoi ? Afin, comme dit Romains, chapitre 14, verset 4, que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Si l'Écriture n'était qu'un livre de contes merveilleux, eh bien, elle resterait dans le domaine de l'imaginaire. Mais la parole de Dieu accomplit dans les vies de chacun la patience, la consolation et enfin l'espérance. Donc nous voyons dans la Bible beaucoup de gens qui pleurent. La Bible ne dit pas que la vie est agréable. Les gens pleurent de l'Ancien Testament jusqu'à la fin. Abraham pleure parce qu'il a perdu sa femme dans Genèse chapitre 23. Ésaü pleure parce qu'il a perdu la bénédiction. Il a perdu son droit d'aînesse et toutes les bénédictions qui étaient attachées à ce droit d'aînesse dans Genèse chapitre 27. Joseph va pleurer aussi quand il va voir ses frères arriver en Égypte pour chercher de la nourriture dans Genèse chapitre 42. Ruth, Orpa et Naomi pleurent parce qu'elles se retrouvent dans une situation catastrophique dans le livre de Ruth. Anne pleure dans la maison de l'Éternel à cause de sa stérilité dans 1 Samuel chapitre 1. L'histoire de David aussi est marquée de beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. David pleure quand il doit fuir Saül et quand il doit quitter son ami Jonathan. Il va pleurer aussi à la mort de ce dernier. Il va pleurer devant les conséquences de son adultère dans le psaume 51. David aussi va pleurer quand il va perdre son fils en bas âge qu'il a eu d'Abatsheba. Et David va pleurer aussi quand son fils Absalom, chair de sa chair, va se révolter contre lui, 2 Samuel chapitre 18. Ézéchias pleure aussi devant la maladie, et ça nous arrive aussi de pleurer devant la maladie, devant toutes les difficultés de cette vie. Jérémie pleure devant la chute de Jérusalem, les exilés aussi pleurent quand ils pensent à Sion dans le psaume 137. Les sacrificateurs âgés pleurent aussi quand ils retournent dans l'exil et qu'ils se souviennent de la gloire du temple. Pierre aussi va pleurer après avoir renié trois fois son maître. Et enfin, Jésus lui-même pleure lorsque Lazare est mort devant la tombe de Lazare, dans Jean chapitre 11, verset 35, parce qu'il se rend compte bien que le péché entraîne beaucoup de souffrances dans la vie des hommes. Il se peut ce matin que vous vous identifiez pleinement à une de ces personnes qui a été nommée là, parce que vous vivez des choses similaires. Les difficultés, le deuil et bien d'autres problèmes. Les paroles que Jésus adresse à cette femme sont aussi pour vous, ne pleure pas. Cette femme avait bien raison pour sombrer dans le désespoir. Et tous ces gens qui l'accompagnaient avec leurs cris, leurs larmes, leurs lamentations, rendaient encore plus aiguë la souffrance de cette femme qui venait de perdre son fils. Cette femme avait connu la totale, comme nous disons aujourd'hui. Tout d'abord, elle avait perdu son mari. On nous dit que c'était une veuve. Et maintenant, elle perdait son fils. Plus aucun lien familial. Plus personne pour raconter des histoires le soir au coin du feu. Plus personne avec qui échanger dans la maison. Elle se retrouvait seule et dans le chagrin. Ensuite, une autre cause de désespoir tenait au fait qu'il ne faisait pas bon. C'était pas une bonne chose d'être veuve à cette époque. Elle avait perdu des ressources financières que lui procurait d'avoir un mari et ensuite un fils. Tout ça était parti dans la tombe. Et enfin, elle n'aurait plus de descendants. pour perpétuer son nom en attendant la venue du Messie. Elle était donc privée de l'avenir de son peuple. Voilà une dame, une veuve qui se trouvait dans une grande tristesse, la totale, comme nous dirions aujourd'hui. Il était facile pour cette veuve et pour toute autre personne d'interpréter ce qui lui arrivait comme une malédiction de Dieu, une malédiction qui s'abat sur elle. Et dans le chapitre 7 de Luc, il est mentionné trois types de personnes qui semblent être les plus démunies, les plus abandonnées de Dieu, les plus éloignées de sa grâce. Il y a ce centenier romain au début du chapitre 7, dont le serviteur est malade, le centenier romain qui parle de la domination des païens chez les juifs. Il y a aussi la veuve, cette veuve qui symbolisait la solitude et l'abandon. Et enfin, il est question aussi d'une femme pécheresse que l'on voit au verset 27 verset 37 de Luc chapitre 7. Christ, justement, est venu pour ce genre de personnes. Il est venu pour ceux qui pleurent, pour ceux qui sont tristes. Et nous lisons dans Marc chapitre 2 verset 17, ce sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et Jésus de lui-même, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc si nous sommes pécheurs, si nous sommes dans la tristesse à cause du péché, à cause de la maladie, à cause des problèmes de cette vie, c'est vers Christ que nous devons aller. C'est là que nous devons chercher la solution à tous nos problèmes. Problèmes momentanés de cette vie, mais problèmes aussi pour l'éternité. Notre monde est frappé de mort sous le coup de la malédiction de Dieu à cause du péché. Le péché qui est arrivé dans le jardin d'Éden. Eh bien, le cas de la veuve qui accompagne son fils à sa dernière demeure illustre bien la condition de l'humanité. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y avait de l'espoir pour le lépreux, il y a de l'espoir pour un paralytique, il y a un espoir pour le serviteur du centenier, parce qu'ils n'étaient pas encore morts. Mais ici, le fils était déjà mort. La malédiction de Dieu que Dieu avait prononcée sur le péché s'est abattue. La mort. Et nous lisons dans Ésaïe, chapitre 40, versets 6 à 7, « Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. » Quand il dit ça, il parle des hommes et de la vie. Nous savons que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Qu'il y a un temps où nous sommes là, où nous sommes en santé, et puis au fur et à mesure que nous avons son âge, eh bien nous diminuons, et puis un jour, nous quittons cette terre comme la fleur, nous tombons. Eh bien, le Seigneur est venu avec des paroles de consolation. Ne pleure pas. Il est venu avec des paroles de consolation pour permettre aux humains de faire face à cette terrible réalité de la vie. Notre seule paix, notre seule satisfaction, notre seul repos ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, a dit le Seigneur Jésus. Et nous lisons verset 13 de notre texte, Luc chapitre 7, verset 13, nous revenons à ce texte. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, « Jeune homme, je te dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Les hommes ne peuvent s'appuyer que sur leur force, que sur leur sagesse, que sur leur connaissance. Et nous voyons que la pandémie de la Covid-19 a bien secoué le monde. Il n'y a pas une réponse efficace à 100%. Il y a dû avoir des recherches, des vaccins. Il y a eu beaucoup de morts. Et nous ne pouvons nous appuyer que sur notre sagesse. Il a fallu de l'argent. Il a fallu des efforts. Mais cela ne peut pas vraiment nous délivrer de toutes les vicissitudes de cette vie. Cela ne peut pas apporter une paix durable, une joie, comme il y a eu dans ce texte à la fin. Eh bien, nous ne pouvons pas toujours consoler tout le monde. Nous ne pouvons pas consoler toujours ceux qui souffrent, malgré notre bonne volonté, mais le Seigneur, lui, le peut. Il le peut parce qu'il est le Dieu de toute consolation. Lui seul pouvait vraiment consoler cette veuve. Pour notre consolation, les premiers versets de notre récit illustrent deux forces opposées qui existent dans le monde. Regardons les premiers versets. au verset 11, il a dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples, une grande foule, faisaient route avec lui. Voilà, on voit Jésus qui va dans une direction, et dans l'autre direction, lorsqu'il fut arrivé près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Voilà deux cortèges. Un qui va dans un sens, Jésus qui va vers la ville, et un autre qui sort de la ville. Alors nous avons au verset 12 le cortège de la mort, avec la veuve, le défunt, suivi d'une foule de gens qui pleurent. Rappelons-nous, frères et sœurs, la mort c'est le salaire du péché. Le salaire du péché c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et vous savez, le cortège de la mort, personne ne l'arrête. On ne peut pas dire qu'on va échapper à la mort. Tous, un jour, vont faire partie de ce qu'on voit. Chacun se joint à la foule de ceux qui pleurent. Voilà un premier cortège. Mais il y a un deuxième qui va dans la direction opposée, le cortège de la vie, au verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm, ses disciples, et une grande foule faisait route avec lui. Voilà, à la tête de ce cortège qui se trouve, c'est le Seigneur Jésus qui se trouve à la tête du cortège, suivi de ses disciples et d'une grande foule. Et le Seigneur est porteur d'un principe opposé à celui du péché. Quel réconfort pour nous ce matin, nous l'avons abondamment dit ce matin dans ce temps de louange. Je suis la lumière, je suis la lumière, je suis et la vie, le Seigneur est la lumière et la vie. Par conséquent, aucun cas n'est désespéré pour Jésus, le Seigneur, ni le cas du serviteur du centenier, qui était malade et sur le point de mourir, ni le cas de ce jeune homme qui était déjà mort. La compassion du Seigneur Jésus est mise une fois de plus en relief dans notre récit. Luc est médecin. Les médecins s'attachent aux détails. Et Luc souligne que Jésus s'approche et touche le cercueil au verset 14. Nous lisons. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha, verset 14, et toucha le cercueil. D'après la loi, le contact avec un cercueil ou un mort rendait impur. La loi de Dieu faisait bien la distinction entre le pur et l'impur parce qu'elle voulait marquer la différence entre la vie et la mort. Elle voulait éloigner loin de la vie tous ceux qui appartenaient à la sphère de la mort. La mort devait rester hors du camp, loin du toucher. C'est pourquoi le cortège sortait de la ville, le mort était emporté hors des murs. Jésus, lui, touche le cercueil. Il n'a pas peur. Le Seigneur n'est pas souillé par ce qui est impur. Il est la source de la vie. La pureté jaillit de lui et lave toutes sortes de souillures, de maladies et même la mort. On voit les lépreux qui sont guéris, les malades qui entendent, qui sont guéris aussi. Et ce qui est dévoilé ici dans nos textes, dans une certaine mesure, est mis pleinement en lumière à la fin de l'évangile de Luc sur le mont du Calvaire. Et on s'est rappelé ce matin encore l'agneau de Dieu. On se l'est rappelé aussi par la scène. C'est en effet sur la croix que Jésus a connu la mort dans toute sa profondeur, dans toute son horreur. Et c'est sur la croix qu'il a pris notre place. Christ s'est donné pour nous afin de nous racheter de la malédiction de la loi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, nous lisons « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Christ a pris sur lui notre péché. Dans Ésaïe 53, on peut tourner les pages de notre Bible. Ésaïe 53, c'est dit d'une façon très très imagée. Ésaïe 53, nous lisons au 53, verset 4, pour parler de cette horreur qui est le péché que nous portons en nous dès notre naissance. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. On aurait pu dire, mais on vit la vie, on travaille, on mange beaucoup. Où il y a de la douleur, où il y a du péché, où il y a des souffrances. Mais c'est à cause du péché que il y a tant de souffrances dans la vie. Et au verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Tout cela à la croix du calvaire. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà. C'est sur la croix, Christ a pris nos péchés, a subi à notre place la colère de Dieu pour que nous n'ayons pas à la subir à notre tour. À la croix, Christ a pris sur lui nos maladies et notre mort. Par sa résurrection, il a vaincu la mort. Et Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 10, « Notre Seigneur Jésus-Christ a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » L'Évangile, cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. Ainsi, Jésus pose sa main sur le cercueil. Il n'a pas peur de la mort, il n'a pas peur de l'impureté, parce que lui, il peut, il est pur, il est grand, il est le Dieu Tout-Puissant. Il touche la mort et peut apporter une vraie consolation à ceux qui pleurent. Voilà, cette première partie nous a montré la compassion de Jésus en face de l'affliction. Mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que Jésus dit à cette dame, ne pleure pas, et ça s'arrête là? On voit bien au contraire la suite. On voit que la mort, la puissance de vie de Jésus qui triomphe de la mort, dans le verset 14 que nous lisons. Verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » On va pas faire ça, nous. Hein. On n'a pas cette capacité-là. Le Seigneur a la capacité de ressusciter les morts. Quelle parole, quel commandement, jeune homme, je te le dis, lève-toi. On aurait pu dire, mais les morts, il ne va pas entendre. Eh bien, lorsque Dieu dit une parole, elle s'accomplit. Et nous pouvons nous appuyer pleinement sur la parole de Dieu, sur toutes ses promesses, pour cette vie et pour l'éternité. Dans l'évangile de Jean, Jésus a dit à Lazare, depuis mort, Lazare qui était mort depuis 4 jours, il lui va lui dire aussi, au verset 24, Lazare sort. Mais il est mort, Lazare, depuis 4 jours, il ne va pas entendre. Mais la parole de Dieu triomphe de la mort. Lazare était déjà dans le tombeau. Il sentait même déjà. Ici, le jeune homme allait être enterré. Dans les deux cas, sur l'ordre de Jésus, la mort revient, le mort revient à la vie. On voit aussi des cas de résurrection dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas une résurrection aussi époustouflante. Élie, par exemple, va demander à Dieu de ressusciter le fils de la veuve de Sarepta. Il va demander à Dieu cette permission. Mais Jésus, lui, agit en tant que Dieu. Il accomplit lui-même la résurrection. Parce que Jésus détient la puissance de la vie, il commande même ceux qui sont morts. N'est-ce pas le cas de tous les enfants de Dieu? Regardons dans Éphésiens, chapitre 2, pour voir comment nous sommes passés de la mort à la vie, par la parole de Dieu, par l'Évangile, Éphésiens, chapitre 2. Paul écrit dans Éphésiens, chapitre 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. » Il s'agit bien sûr de mort spirituelle. « Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. » Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà, nous étions morts, morts spirituellement, insensibles à toute réalité spirituelle. Nous étions des morts vivants, nous vivons dans cette vie, sur cette terre, comme cela, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. et nous étions par nature des enfants de colère, dignes de la colère de Dieu. Mais parce que Dieu est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà la puissance de vie qui triomphe de la mort. Et que nous dit la fin du récit? Jésus a été plein de compassion pour cette femme tout d'abord. La puissance de vie a triomphé de la mort. Et qu'est-ce qu'il nous est dit à la fin, au verset 16, Luc 7, 16? Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Voilà, ce qui devait être une journée de tristesse s'est transformé dans une journée de joie. Après la compassion de Jésus face à la souffrance, à l'affliction, après la manifestation de la puissance de vie, on voit vraiment des cris de louange. Des cris de louange. Et la parole nous invite à nous réjouir dans le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. La louange de Dieu, versets 16 à 17. Les témoins de la résurrection du fils de la veuve ont vu en Jésus un grand prophète. C'était pas n'importe qui, un grand prophète. Ce grand prophète n'était pas quelqu'un qui était à l'étranger, mais c'était un prophète qui était parmi eux. Signe que Dieu a visité son peuple. Nous n'aurons pas d'excuses devant Dieu si nous disons « Oh, mais il y avait aucun remède au péché, parce que Dieu est venu. Il s'est incarné. Il a marché sur cette terre. Il a souffert comme les hommes. Il est allé jusqu'à la croix, afin que chacun, toute personne qui place sa confiance en lui, puisse avoir le salut, puisse avoir le pardon de ses péchés. Si nous sommes des enfants de Dieu, c'est parce que Dieu nous a visités que nous sommes passés de la mort à la vie, comme nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2. Le jour où par la foi nous avons placé notre confiance totale en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, nous avons eu l'assurance que le fardeau de notre péché a été ôté, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Notre vie entière a été par la suite complètement changée. D'autres aussi ont remarqué des évolutions positives dans notre façon de vivre. Est-ce que nous ne devons pas être pleins de crainte comme ce peuple? Tous furent saisis de crainte, cette crainte respectueuse, cette crainte où nous voyons ce Dieu comme ils ont vu un grand prophète parmi nous. Est-ce que nous ne devons pas éclater davantage en louange envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous par l'Évangile? Et la louange doit monter de nos cœurs tous les jours, car notre salut est assuré une fois pour toutes, comme nous l'avons lu dans Hébreux chapitre 10, et les promesses de Dieu sont pour toute la vie et toutes les circonstances de la vie. Vous n'avez peut-être pas encore fait la paix avec Dieu. Il ne faut pas attendre, parce que la mort peut vous surprendre comme ce jeune homme. Vous êtes peut-être jeune dans la foi et vous craignez de vous déclarer publiquement pour Dieu. La Bible vous encourage à ne pas rester dans l'anonymat, à faire connaître ce que Christ a fait pour vous. Vous êtes chrétien peut-être depuis un certain temps. Le Seigneur nous exhorte à prendre chaque jour notre croix et à le suivre, à ne pas rester en recul. On ne voit pas dans la Bible de chrétiens qui butinent un jour dans le monde, un jour avec Dieu, un jour dans l'assemblée, un jour dans le monde, un jour marchant selon la volonté de Dieu, d'autres jours marchant selon nos propres désirs. La méthode divine, c'est de nous donner la vie. Dieu nous donne la vie, Dieu nous ramène à la vie, pour que nous puissions le suivre. Il est le berger, il est celui qui accompagne ses brebis. Notre place est déjà prête, on l'a lu dans un verset ce matin, il nous a préparé une place. Il reviendra nous chercher, notre place est prête. Notre ministère nous attend avec les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance si nous sommes enfants de Dieu. Là, dans l'Église, nous apprenons les autres et les autres apprennent de nous. Alors nous verrons Dieu à l'œuvre dans la vie des autres et dans notre vie aussi. Et ensemble, nous louerons le Seigneur, nous sommes vivants pour le Seigneur. Alors, si vous êtes chrétien depuis un certain temps, le Seigneur nous exhorte à prendre chaque jour notre croix et à le suivre, à ne pas rester dans le monde, un jour avec lui, un jour à l'église, des semaines sans être là. Non, il nous apprend, il nous invite à le suivre. « Ne pleure pas, » a dit le Seigneur à cette femme. Et il le dit à tous ses enfants qui passent par des moments difficiles. Si le Seigneur, si vous passez par des moments difficiles aujourd'hui, le Seigneur le sait bien. Il ne méprise pas nos larmes, il ne les minimise pas non plus. Bien au contraire, il connaît parfaitement les causes de notre tristesse. Et il nous dit aussi à nous, ne pleure pas. Il nous dit, ne pleure pas parce qu'il a passé, il a posé sa main sur la source de nos larmes afin de pouvoir nous adresser des paroles de vie. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est un homme de douleur et habitué à la souffrance. Il ne parle pas dans le vide, il n'agit pas dans le vide, il est passé aussi par là. Mais malgré qu'il était un homme de douleur habitué à la souffrance, personne n'a connu une paix et une joie profonde comme lui. Il désire que sa joie soit notre joie, que sa paix soit notre paix. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, 15, 16 et 17. Dans nos épreuves et dans nos chagrins, nous ne devons pas oublier que Dieu pose sur nous un regard de compassion. Hébreux, chapitre 2, verset 18. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Voilà pour nous un sujet de joie, de réconfort, de savoir que notre Dieu a été tenté, il a souffert pour que nous aussi, quand nous passions par ces moments difficiles, nous puissions connaître sa consolation. Et il pose la main sur tous nos problèmes, sur toutes nos difficultés. Dieu donc a donc pourvu à tout ce qui nous est nécessaire, et nous ne pouvons pas acquérir par nous-mêmes, nous enfants de Dieu. Ce miracle le prouve. Quand il dit à cette femme, ne pleure pas, quand il pose la main sur le cercueil, quand il dit à ce jeune homme, lève-toi, on voit que Dieu a tout en main et qu'il contrôle toutes choses. Et dans Colossiens chapitre 2, verset 20, nous lisons, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous lisons encore dans Romains chapitre 8, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On peut prendre Romains chapitre 8 pour voir toutes ces choses. Si nous sommes enfants de Dieu, pour que nous connaissions la consolation du Seigneur dans nos tristesses, dans nos pleurs. Romains chapitre 8, verset 28. Nous commençons verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous pouvons pleurer dans cette vie, nous pleurons bien souvent, nous sommes souvent tristes. Eh bien, beaucoup d'hommes de Dieu ont aussi pleuré, pour diverses raisons. Mais Jésus dit à chacun de nous, ne pleure plus. Alors, aucune de nos larmes ne devrait tomber à terre sans espoir. Nous pouvons nous réjouir de ce qui est à venir. Nous pouvons porter les regards sur Jésus, et sur le jour, il n'y aura plus de larmes. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Je vous laisse avec ces paroles de Jean, de Jésus lui-même dans Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Eh bien, que le Seigneur nous console dans toutes nos afflictions, dans toutes nos larmes. Et j'aimerais qu'on chante ce cantique numéro 44, « Ma richesse, ma gloire et ma félicité, c'est de croire que tu m'as racheté », numéro 44, « Sur les ailes de la foi, ma richesse, ma gloire ». Et on peut se mettre debout pour entonner ce cantique, si vous le voulez bien.